Jusqu'à la fin du mois d'août, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire en vous offrant quelques-unes de vos émissions préférées issues de nos archives.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Retour à Gaza dans la marche du monde, à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu la partition de la Palestine en 47, la naissance d'Israël en 48 et la transformation de la ville en vaste camp de réfugiés. Retour à Gaza dans ces années 50, où un petit territoire de 360 km² devient la matrice du nationalisme palestinien.
À Gaza, il n'y avait pas ce sentiment d'enfermement qu'il est aujourd'hui, qu'il est senti par 1,5 million des Palestiniens. Donc Gaza, contrairement aux idées reçues, était un fief de mouvement national, était un fief de liberté. Il y avait une vraie vie culturelle, il y avait une vraie résistance contre l'occupation et il y avait une vraie volonté de défier l'occupation, de continuer la vie malgré toutes les difficultés sur place.
La voix de Ziad Medouk, directeur du département de français de l'université Al-Aqsa à Gaza. Il exprime sa vision du passé de Gaza au micro de Nicolas Falaise. La marche du monde explore l'enfance de Gaza, la recherche des origines du nationalisme palestinien, avec pour guide Jean-Pierre Filieu. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous accompagner. Jean-Pierre Filieu, vous êtes historien, arabisant, professeur à Sciences Po, et c'est justement votre livre Histoire de Gaza, publié aux éditions Fayard, qui nous a incité, avec Nicolas Falaise, à aller à la rencontre de certains des témoins de l'histoire que vous-même avez rencontrés. Mais avant de les entendre, j'aimerais, Jean-Pierre Filieu, que vous puissiez nous dire pour quelles raisons vous avez souhaité replacer Gaza au centre de l'histoire de la Palestine.
Bien, d'abord, il y avait un vrai manque, justement, dans l'historiographie palestinienne, qui soit se concentrait sur Jérusalem et la Cisjordanie, soit sur les différents avatars de la diaspora, plus ou moins militante. Or, au fil de mes recherches, au fil des années, j'ai pu, je crois, prouver, démontrer que Gaza était bel et bien au centre, et comme vous l'avez décrit d'emblée, la matrice du nationalisme palestinien.
Et c'est une histoire très difficile à écrire pour la simple et bonne raison que les sources, les archives, ne sont pas toutes accessibles. Quelles ont été vos difficultés et comment avez-vous tenté de les résoudre ?
Mais il y a d'abord effectivement des difficultés de méthode considérables, vu que c'est une histoire sans archives constituées, vu que naturellement il n'y a pas d'État, mais même les occupations successives soit n'ont pas laissé d'archives, vu qu'elles ont effacé celles de l'occupation précédente, soit elles les ont rendues inaccessibles. Et aujourd'hui, il y a la division du mouvement palestinien qui accroît encore plus ces difficultés, dès qu'il faut travailler avec des matériaux originaux, beaucoup d'entretiens, beaucoup de tracts et les croisés suivant une méthode historique un petit peu agile.
Donc l'historien a fait de l'histoire orale. Alors avant de nous rendre à Gaza, donnez-nous à voir cette ville avant 48-49, avant l'arrivée de la première grande vague de réfugiés. À quoi ça ressemblait Gaza ?
En fait, Gaza, à la fin des années 40, est une ville qui a relativement prospéré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sa population a doublé, elle atteint 35 000 habitants à peu près, du fait du stationnement des forces alliées, britanniques mais aussi australiennes. Et puis surtout, il ne faut jamais oublier que dans l'histoire, en fait, jusqu'à avant-hier, jusqu'à 48, Gaza était un carrefour, était une oasis, et que ce territoire que tout voué par la géographie à être un lieu d'échange va devenir un espace clos dans lequel effectivement le nationalisme palestinien va se développer.
Alors vous précisez, Jean-Pierre Filieu, dans votre livre que la vague massive des réfugiés, évidemment, c'est à partir de 48, mais qu'avant, avant le 14 mai 48, avant la fondation de l'État d'Israël, plus de 10 000 réfugiés avaient déjà convergé vers Gaza. Alors beaucoup d'autres vont suivre, hein, comme en témoigne Intissar Al-Wazir au micro de Nicolas Falaise. Intissar Al-Wazir est née en 1941 à Gaza. Elle est la première femme à avoir rejoint le Fatah et elle n'est autre que la veuve de Khalil Al-Wazir, un des fondateurs de ce mouvement politique et militaire créé en 1959. Intissar Al-Wazir a vécu l'arrivée des réfugiés palestiniens.
لا زالت الذكرى يعني. أول شيء بتذكر الرعب اللي كنا نعيشه في غزة أثناء قصف الطيران الإسرائيلي لغزة.
Je me souviens très très bien de cette période, surtout de la terreur effectuée par l'armée israélienne à Gaza et des bombardements quotidiens. C'est ça mes premiers souvenirs. Et justement, nous avons entendu les récits palestiniens de ces gens expulsés de Sinjar, d'Acre, de Jaffa, de Haïfa, avec toute la terreur racontée par ces réfugiés.
بالتأكيد يعني كانت الرعب اللي بنعيشه في هذيك الظروف وبعدين
après la terreur qui est effectuée par Israël, ma deuxième souvenir c'est de toujours suivre les infos à travers la radio, tout ce qui s'est passé dans les villes palestiniennes en Cisjordanie à côté en 48 pour être informé, pour suivre les informations au fur et à mesure.
Le problème de ce qu'on appelle le territoire de Gaza n'est sans doute pas connu du grand public. Le territoire de Gaza, vous le savez peut-être, est une bande de terrain entre Israël et la mer de 5 à 8 km de large sur 40 km de long. Ce territoire est bordé au sud par la frontière égyptienne et son seul titre de célébrité est d'être presque certainement le plus grand camp de réfugiés du monde.
L'arrivée des réfugiés à Gaza, une actualité commentée à la radio française par Édouard Sablier, envoyé spécial du journal Le Monde. La ville est alors complètement transformée, se souvient Intissar al-Wazir.
La vie vraiment a été bouleversée. Gaza, avant l'arrivée des réfugiés, était une ville calme, au bord de la mer. Mais l'arrivée de plusieurs centaines de milliers de réfugiés a fait tripler la ville de Gaza. Et donc tous les besoins ont augmenté.
Monsieur de Rouget, secrétaire général de la Ligue des sociétés de Croix-Rouge, a pu étudier la condition de ces réfugiés.
La condition des réfugiés est encore précaire, bien qu'elle se soit améliorée. Leur nombre est actuellement d'environ 800 000. Ils vivent dans des camps, sous des tentes qui leur ont été fournies par les Nations Unies et dans lesquelles ils ont été installés par la Croix-Rouge. Ils vivent aussi dans des baraquements et quelques-uns d'entre eux dans des familles qui les ont hébergés.
Justement, ces réfugiés-là, vite fait, des organisations ont commencé à s'occuper de leur arrivée en bâtissant des tentes. Je me souviens surtout aussi de l'organisation des Palestiniens, que ce soit des Gazaouis, des réfugiés, immédiatement de prendre en charge l'organisation de l'arrivée de ces réfugiés et de faire des écoles déjà dans les tentes et d'organiser une vie précaire, en sachant que demain on va revenir chez nous, mais une organisation de vie sociale rapidement pour prendre en charge des enfants dans l'école sous les tentes.
Quand on est à Gaza dans les années 1950, Gazaouis ou réfugiés à Gaza, on croit vraiment que l'exil sera de courte durée.
Exactement, oui. Ce que pensaient les réfugiés et les Gazaouis. Justement, les pays arabes et l'armée arabe qui nous demandaient « Ne vous inquiétez pas, on arrive, on va vous libérer, on va libérer la Palestine et vous serez chez vous. » Depuis la promesse des pays arabes jusqu'à aujourd'hui, ça fait 64 ans.
Intissar al-Wazir au micro de Nicolas Falaise. Alors en deux ans, Jean-Pierre Filiu, pendant cette première guerre israélo-arabe qui oppose Israël à six pays arabes, vous précisez dans votre livre que la population bien sûr se retrouve démultipliée à Gaza avec l'arrivée des réfugiés. Dans les documents d'archives que nous entendions, le chiffre de 800 000 était avancé. Vous l'historien, quel chiffre pouvez-vous nous donner ?
800 000 c'est le chiffre global hein, des réfugiés de la Palestine. Un quart d'entre eux ont convergé vers la bande de Gaza, vers ce qui devient la bande de Gaza, hein, par le fracas des armes. Donc ça veut dire que un quart des réfugiés de la Palestine va se retrouver sur 1% du territoire de la Palestine du mandat britannique. Donc effectivement, la population de Gaza, excusez-moi de continuer dans les chiffres, va être multipliée par 3.
Ouais.
Et que chaque ville ou village de Gaza va voir à côté de lui se développer un camp de réfugiés qui est beaucoup plus important que l'agglomération originelle. Et qu'en même temps, une grande partie de ces réfugiés voient littéralement leur terre, leur maison, de l'autre côté de ce qui n'est qu'une ligne d'armistice qui est peu démarquée, d'où des infiltrations continuelles, des incidents continuels, avec effectivement des cycles de représailles qui vont ancrer cette militance au sein de la population de Gaza.
Dans quelles conditions sanitaires se retrouve-t-il, Jean-Pierre Filliou? Vous avez tenté d'établir justement la situation réelle de Gaza à l'époque.
Là aussi, je le reconnais volontiers avec des éléments partiels, mais les témoignages que j'ai recueillis sont tout à fait accablants, notamment sur le premier hiver, donc 48-49,
oui,
où on parle de nombreux morts de faim ou de froid. On croit souvent que parce que la Méditerranée, parce que le sable, eh bien non, ce sont des hivers terribles. Et les premiers à être venus au secours des Palestiniens sont les Quakers américains, qui est un souvenir qui est encore très ancré dans la mémoire locale. Et après, on aura effectivement cette agence des Nations Unies, dont la mission est initialement temporaire, mais qui va s'installer dans la durée.
Alors le décor est planté, et ce qui est passionnant dans votre histoire de Gaza, c'est que vous décrivez comment, au sein de cette situation, vont émerger plusieurs forces politiques. Et d'ailleurs, vous expliquez que dès 46 à Gaza, où l'influence égyptienne est la plus grande, Hassan al-Banna, qui est le fondateur des Frères musulmans, a créé une section palestinienne des Frères. Est-ce que c'est le mouvement dominant de ces années-là ?
En termes de militants, sans doute. Et effectivement, il faut voir que Gaza étant, par la géographie, adossé à l'histoire et adossé à l'Égypte, en Égypte, au même moment, les Frères musulmans ont 500 000 de membres. Donc effectivement, cela profite beaucoup à la branche locale du mouvement islamiste. Mais il y a aussi toutes les autres tendances. Il y a très tôt des communistes qui sont très actifs, notamment en milieu étudiant. Il va y avoir des bassistes, des nationalistes arabes. Et c'est un peu dans cette poche privilégiée de l'agitation la plus radicale que vont se développer toutes ces tendances.
Et à ce moment-là, vous nous contez aussi cette création du gouvernement de toute la Palestine. Alors c'est assez étonnant, nous sommes le 22 septembre 48, la même année que la naissance d'Israël, et ce gouvernement de toute la Palestine voit le jour. Alors est-ce que c'est un instrument du Caire, ou est-ce qu'il y a une réalité, je dirais, politique palestinienne dans cette expérience? Et vous expliquez même que ce gouvernement va délivrer des passeports.
Oui, il va délivrer à peu près 12 000 passeports à ses partisans. Alors effectivement, il va exister quelques semaines dans une école qu'on peut toujours voir à Gaza, une école en partie désaffectée. Et quels que soient les calculs de l'Égypte, c'est l'expression, la première du genre, du nationalisme,
oui,
palestinien. Il y a une déclaration d'indépendance, il y a un parlement, effectivement un gouvernement qui se constitue, mais tout cela est fugace,
oui,
et une offensive israélienne, parmi d'autres, fait que l'Égypte contraint ce gouvernement à se réfugier vers le Caire et donc à disparaître en tant qu'entité autonome.
Alors justement, quelle analyse faites-vous de ce premier échec, je dirais, de cette première expression du nationalisme palestinien sous sa forme politique? La faute à Israël, la faute aux pays arabes, quel est l'intérêt finalement des uns et des autres à ce que cette expérience avorte?
On voit que à chaque fois, dans les tournants de l'histoire palestinienne, les Israéliens, bien sûr, n'ont aucun intérêt à ce que le nationalisme s'exprime de manière autonome. Mais entre l'Égypte et la Jordanie, il y a une position très différente. La Jordanie est annexionniste. Elle va d'ailleurs s'emparer de la Cisjordanie et l'incorporer dans ce qui devient le royaume hachémite de Jordanie. Alors que l'Égypte, elle, en permanence, insiste sur son absence de revendication territoriale, tout en souhaitant contrôler l'expression palestinienne. Donc on a cette relation ambiguë qui fait que la bande de Gaza devient littéralement un territoire par défaut, où le nationalisme palestinien va se développer à la fois contre l'Égypte et à l'ombre de l'Égypte.
Et en ce qui concerne justement l'ancienne puissance mandataire, hein, les Britanniques et la France, comment justement ces puissances européennes regardent ce laboratoire gazaoui ?
J'ai pu constater, alors là pour le coup dans les archives diplomatiques, oui, que Gaza intéresse fort peu de monde, déjà. Et que, en fait, les diplomates sont concentrés sur Jérusalem, la question des lieux saints, l'organisation de l'assistance aux réfugiés de manière générale, mais en fait beaucoup plus d'intérêt pour les camps qui se trouvent en Cisjordanie, voire en Syrie ou au Liban. Et au fond, peu de gens, peu d'observateurs vont à Gaza, où on laisse les Égyptiens un peu maîtres du jeu, et Gaza se retrouve sortir du champ de vision des puissants, alors même que c'est là que, secrètement, silencieusement, mais de manière tenace, le nationalisme palestinien reprend forme.
Et c'est bien ce que semble confirmer cette archive que nous avons entendue tout à l'heure, hein, puisque le commentateur parle d'un camp de réfugiés quasi inconnu.
Effectivement, et donc il y a déjà à l'époque une approche spontanément humanitaire pour ce sujet qui évacue le politique, comme si la question de Gaza, qui est fondamentalement politique, devait être traitée dans la durée comme un problème d'assistance à des populations démunies. C'est une erreur de perception qui n'a pas fini de perdurer.
Retour à Gaza dans la marche du monde, aux origines du nationalisme palestinien, avec notre invité Jean-Pierre Filiu, qui nous fait le plaisir de ce cadeau musical. Il s'agit d'une chanson interprétée par le groupe Zedda, dont vous signez les paroles. Je vous laisse nous en annoncer le titre.
Ça s'appelle « Une vie de moins ».
Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper.
Retour à Gaza dans la marche du monde, aux origines du nationalisme palestinien, avec notre invité Jean-Pierre Filiu et nos grands témoins rencontrés sur le terrain par Nicolas Falaise. C'est à suivre juste après les infos.
J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à ton menti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme mille autres, mille après mille avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre.
Thank you.
marche du monde. Valérie Nivelon.
Retour à Gaza dans la marche du monde, une destination motivée par le livre remarquable de Jean-Pierre Filiu, Histoire de Gaza, paru aux éditions Fayard, où l'histoire de Gaza est replacée au centre de l'histoire de la Palestine comme l'un des foyers majeurs du nationalisme palestinien.
À chaque opération de Fidaïn, la riposte israélienne était assez violente et assez grave. Toutefois, le peuple palestinien, à cette période, cherchait une autre perspective. Il était centré sur le retour. Donc, c'était une période d'attente de retour chez eux, avec beaucoup de promesses, mais en même temps avec beaucoup de désarroi et de désespoir. Madame El Wazir, il disait qu'ils ont toujours gardé les clés de chez eux, en sachant que demain, je rentre chez moi.
La voix d'Intissar Al-Wazir dans la marche du monde, l'une des trois personnalités rencontrées par notre envoyé spécial Nicolas Falaise sur le territoire palestinien. Jean-Pierre Filiu, nous poursuivons dans la marche du monde ce retour sur les années 40 et 50 à Gaza, parce que ce sont des années fondamentales où se construit peu à peu cette identité gazaoui, une ville transformée par l'arrivée massive des réfugiés qui ont fui Israël devant les troupes de Tsahal, l'armée israélienne, face aux armées arabes, principalement égyptiennes, et également aux milices palestiniennes. Alors justement, comment ces milices palestiniennes se sont-elles constituées ?
Fondamentalement sur la base du volontariat, elles apparaissent dès l'hiver 1947-48 avec différents groupes armés sous différents drapeaux. Et puis au sein de cette coalition, on a effectivement les frères musulmans qui ont une cohérence, et même s'ils ne sont pas les plus importants en termes de nombre, cette unité opérationnelle les sert beaucoup.
Ce sont des milices qui sont armées par qui en réalité ?
Oh, ce sont les armements personnels des habitants, d'ailleurs très pauvres armements, très faible coordination, ce qui fait qu'opérationnellement, c'est fondamentalement l'armée égyptienne qui donne le ton, et que très souvent, les pertes sont considérables du côté des combattants irréguliers palestiniens.
Donc vous l'avez dit, dès 48, ces milices existent. 48, la naissance d'Israël, la guerre israélo-arabe et l'afflux des réfugiés à Gaza fuyant devant Tsahal, l'armée israélienne, un spectacle dont se souvient très bien Mordechai Baron. Il est né en 1928 en Palestine sous mandat britannique. Il a rejoint la Haganah puis Tsahal. Et en 1948, Mordechai Baron commande la brigade Givati qui se bat contre l'armée égyptienne au nord de l'actuelle bande de Gaza.
I grew up in a Marxist youth movement, left-wing youth movement, the Shomer HaTzair. And I was taught to believe in a binational state solution.
J'ai grandi dans un mouvement de jeunesse marxiste, un mouvement de gauche, la Shomer HaTzair. Et ce qu'on nous enseignait, c'est qu'il fallait croire à un État binational, que ce pays était un foyer pour deux nations et que nous devions vivre ensemble. La guerre a changé mon état d'esprit, parce que le premier jour de la guerre, à peine avions-nous fini de danser pour fêter le plan de partition voté à l'ONU le 29 novembre 1947, j'ai été recruté dans ce qu'on appelait la police des implantations, sous uniforme britannique. Et dès ce matin-là, nous avons été attaqués sur la route de Tel Aviv. Beaucoup de mes amis ont ensuite été tués. Pour moi, la guerre s'est rapidement imposée comme un jeu à somme nulle. Nous avons compris que l'État binational était un rêve et que la guerre allait déterminer s'il y aurait ou non un État juif. Et le moment dont je vous parle, nous sommes déjà en octobre 1948, après une année de guerre. Je me souviens avoir pensé, vous avez voulu la guerre, maintenant vous fuyez, restez là-bas, vous ne reviendrez jamais.
There you stay, you'll never come back.
Si Mordechai Baron est persuadé dès 48 que les réfugiés de Gaza ne reviendront jamais dans leur maison, ce n'est pas du tout ce que pensent les Gazaouis, qui savent que leur droit au retour est reconnu par l'ONU. Mais vous écrivez, Jean-Pierre Filiu, que seuls 114 femmes et enfants obtiennent l'accord d'Israël d'y retourner. Et je vous cite, les portes de Gaza se referment alors sur les déracinés. Que s'est-il passé? Comment certains d'entre eux ont pu rentrer? Et pourquoi les portes se ferment à ce moment-là?
Il y a une séquence complexe hein, que je vais résumer rapidement, où la reconnaissance par les Nations Unies du droit au retour des réfugiés palestiniens est vivement contestée et combattue par Israël, et que Ben Gourion, le fondateur hein, de l'État hébreu, propose en fait, pour en finir, si j'ose dire, pour solde de tout compte, d'annexer la bande de Gaza. C'est un épisode relativement peu connu, et d'absorber les réfugiés qui s'y trouvent. À l'époque, il n'a aucune idée du nombre exact des réfugiés. Il pense qu'ils sont 100 000 alors qu'ils sont déjà le double. Mais cette proposition provoque un tollé du côté des pays arabes qui veulent eux revenir sur les lignes du plan de partage de 1947, donc faire reculer Israël au-delà des lignes d'armistice de 1949. Donc impasse diplomatique, et c'est de cette impasse que le temporaire des agences des Nations Unies au profit des réfugiés devient une situation qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
Alors justement, je vous demandais en ouvrant cette émission à quoi ressemblait Gaza avant la première guerre israélo-arabe. Je reprends la question, à quoi ressemble maintenant Gaza à l'issue de cette première guerre en janvier 49?
C'est un territoire qui a été complètement bouleversé. Alors dans le livre, un certain nombre de photographies d'époque montrent comment naissent à partir de rien, souvent au milieu des dunes, de nouvelles agglomérations sur un plan Nations Unies, donc avec des rues tracées au cordeau, d'abord des tentes et puis peu à peu des habitations de fortune qui sont généralement limitées à un étage. Et on a effectivement un accent qui est mis sur l'éducation. L'école devient le centre de la vie sociale parce que c'est là-dedans que les réfugiés qui ont souvent tout perdu investissent pour garder foi en l'avenir et donc dans la génération qui vient.
Alors vous montrez dans votre livre, on l'a évoqué au début de cette émission, que différents mouvements politiques existent à Gaza, les frères musulmans très tôt, mais aussi quelques communistes, mais que c'est en Égypte que le jeune Yasser Arafat, qui va devenir l'icône du nationalisme palestinien pendant plusieurs décennies, prend la direction de l'Union des étudiants palestiniens, une association cofondée avec Abou Iyad en 1951. Comme le raconte Abou Iyad lui-même dans ce document exceptionnel diffusé sur RFI en 1979, et c'est Éric Rouleau, journaliste au Monde et co-auteur du livre « Palestiniens sans patrie », co-écrit avec Abou Iyad, qui assure la traduction. C'est un document RFI.
طبعا يمكن في عام 51 كان اول لقاء مع ابو عمار ومن خلال اتحاد الطلاب الفلسطينيين في خلال 4 سنوات كان في احزاب كثيره طبعا وكان كل واحد منا منتمي لحزب
alors ici Abou Iyad raconte sa première rencontre avec Yasser Arafat, qu'il appelle par son nom de guerre Abou Ammar. Il l'a rencontré pour la première fois en 1951, dans le cadre de l'Union des étudiants palestiniens, qui avait son siège à l'époque au Caire. Et les deux hommes étaient à l'époque étudiants et ils militaient dans cette organisation. Et Abou Iyad nous dit qu'à ce moment, les Palestiniens étaient divisés dans divers partis, parfois antagonistes, et que Yasser Arafat lui-même était parvenu à la conclusion, au bout de 4 ans de lutte estudiantine donc, qu'il n'y avait pas de salut à travers les partis politiques et qu'il fallait pouvoir rassembler tous les Palestiniens dans un mouvement unitaire, indistinctement de leurs opinions ou de leurs tendances politiques, pour mener la lutte armée.
Éric Rouleau, donc, dans cette traduction des propos de Abou Iyad, d'un document RFI où il raconte comment Arafat justifie le passage à la lutte armée. J'aimerais beaucoup votre réaction et votre analyse, Jean-Pierre Filu.
Bien, effectivement, on voit comment Yasser Arafat, donc Abou Ammar, le nom de guerre par lequel il est désigné dans ce document, est originaire de Gaza, même s'il est né au Caire, et qu'il va effectivement incarner le nationalisme palestinien, et comment Abou Iyad, de son vrai nom Salah Khalaf, lui est un réfugié arrivé en 1948 à Gaza, et c'est en Égypte qu'ils vont se rencontrer, militer dans les rangs estudiantins, considérer qu'effectivement l'Égypte bloque les aspirations palestiniennes à l'autodétermination et qu'il faut s'organiser. Alors, ça va prendre de longues années, mais c'est toujours à Gaza, par Gaza, que va se faire cette mutation et donc le mouvement des Fedayines qui va donner quelques années plus tard le Fatah, c'est-à-dire littéralement le mouvement de libération palestinien, donc sur la base de cette analyse entre ces militants qui se sont rencontrés au Caire.
Alors ils ont quel âge à l'époque, les Yasser Arafat, les Abu Iyad, au tout début des années 50? Comment vous pourriez qualifier leur formation politique et peut-être quels sont leurs modèles à votre sens à l'époque?
Déjà, bon, ils sortent, si j'ose dire, à peine de l'adolescence. Hein. Ce sont des militants extrêmement déçus, amers par ce qu'ils ressentent comme une catastrophe et qu'ils appellent la Nakba, littéralement la catastrophe qui a frappé le peuple palestinien en 1948-49. Donc, entre ces différentes idéologies, eux sont très proches des islamistes. Hein. Salah Khalaf, même s'il le niera plus tard, est membre des Frères musulmans, donc Abu Iyad, et Arafat sera longtemps un compagnon de route. Mais ils vont se séparer des islamistes parce que ceci donne justement la priorité à l'islamisation de la société, à un programme plus moral que politique, et eux sont des activistes. Ils pensent que c'est par la lutte armée que la Palestine renaîtra de ce néant où la catastrophe de 48-49 l'a plongée.
Alors, quelle relation existe-t-il entre Nasser, au pouvoir en Égypte depuis 52, et les Palestiniens de Gaza? C'est la question que notre correspondant Nicolas Falaise a posée à Intissar Al-Wazir, veuve de Khalil Al-Wazir, cofondateur quelques années plus tard du Fatah avec Yasser Arafat en 59. Donc, on écoute Intissar Al-Wazir.
À cette période, quand Nasser est arrivé au pouvoir, il y avait des élections législatives à Gaza. Les élus du conseil législatif à Gaza, ils sont allés voir Nasser. Et Nasser, littéralement, il a dit, si vous croyez que je vais libérer la Palestine, ou j'ai les moyens de libérer la Palestine, vous vous trompez.
Ça génère de la frustration, de la colère chez les nationalistes palestiniens à cette époque, comme Khalil Al-Wazir et comme elle-même et les gens qu'elle côtoyait.
Après cette réaction, les Palestiniens et surtout les Fidaïnes, ils ont compris qu'il ne faut pas vraiment attendre énormément du régime arabe et qu'il faut compter sur soi. Et c'est là où Abu Jihad a émergé sa façon de lutte et de dépendre de soi-même pour combattre les Israéliens. Donc Abu Jihad a commencé à regrouper les jeunes palestiniens en groupe et travailler l'entraînement de l'utilisation des armes et comment mener des opérations de résistance contre l'occupation israélienne. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait plusieurs hauts gradés de l'armée égyptienne qui donnaient et aidaient les fidaïens pour s'entraîner.
Ces
groupes-là faisaient des opérations de résistance à l'intérieur d'Israël.
Intissar Al-Wazir, veuve de Khalil Al-Wazir, au micro de Nicolas Falaise. Jean-Pierre Filieu, quel jeu joue l'Égypte à ce moment-là à l'égard des fidèles? On a l'impression qu'il y a une position officielle et une attitude officieuse.
Oh, c'est relativement clair comme jeu, même si effectivement l'Égypte de Nasser, hein, qui est un régime militaire très sourcilleux du contrôle de sa sécurité, a deux fers au feu. D'un côté, les négociations avec Israël, et puis de l'autre, du fait des raids israéliens extrêmement humiliants pour son armée qui sont menées dans Gaza, d'ailleurs sous l'autorité d'un officier ambitieux et impétueux qui est Ariel Sharon. Donc pour riposter à ces raids de manière indirecte, l'Égypte va, comme ça vient d'être rappelé par Intissar Al-Wazir, encadrer, former, entraîner des fédayines palestiniens à des missions d'infiltration en territoire israélien qui, du coup, alimente un cycle de représailles qui va lui-même accélérer l'émergence du nationalisme armé palestinien.
Alors, sur fond de crise du canal de Suez, puisque Nasser nationalise par la force, ont lieu des rafles et des massacres. Et vous consacrez quelques pages de votre livre, notamment à Khan Younes, où les Palestiniens résistent particulièrement. Avant de nous apporter vos éclairages, Jean-Pierre Filiu, je vous propose d'entendre le récit de Intissar Al-Wazir, suivi de celui de Mordechai Baron.
مجزرة في خان يونس بالضبط ومقابر جماعية بعد ما طلعوا اليهود واجت الأمطار سحبت بين يعني كان في واحد مفقود عنده رجل خشبية ولقوا على أثرها في مقبرة جماعية
En 1956, il y a eu le massacre de Khan Younis. L'armée israélienne, quand elle est entrée à Gaza et à Rafah, ils ont commis beaucoup de massacres. Et parmi ces massacres, il y a le fameux massacre de Khan Younis en 1956. Donc, il y a eu beaucoup de morts. En fait, la stratégie israélienne, c'est de faire convoquer tous les hommes contre le mur et de les tuer avec des mitraillettes. Et ils disaient que, au lendemain du massacre, on a cherché les cadavres et on a trouvé une partie, mais une bonne partie a été cachée. On cherchait, mais on n'a pas trouvé. Elle a plu, ce moment-là, et on a vu flotter un pied en bois. On connaît quelqu'un à Khan Younes qui avait un pied artificiel en bois, et il a flotté avec l'eau, et on a su, grâce à cette pièce en bois, qu'il y avait un cimetière collectif. On a creusé, on a trouvé des gens assassinés par l'armée israélienne.
Nicolas Falaise a également demandé à Mordechai Baron d'évoquer le massacre de Khan Younes en 1956. À l'époque, Mordechai Baron était chef de cabinet de Moshe Dayan, chef d'état-major de Tzahal. Que sait-il du massacre de Khan Younes?
I know it from reading history more than having experience. I wasn't there at the time and we got reports.
Je suis au courant, mais par les récits historiques, car je n'étais pas sur place à ce moment-là. Il y a eu une enquête qui a montré comment cela était arrivé. Il y a eu ce qu'on appelle maintenant le massacre de 100 ou 120 Palestiniens qui ont été tués car ils se révoltaient ou provoquaient des troubles. Et l'officier sur place a ordonné de tirer. Cela a été amplifié car à l'époque, à part cet incident, la bande de Gaza était très calme. Nous avons arrêté les fedaïnes et nous avons arrêté des personnalités proches du régime égyptien, une ou deux peut-être, pas davantage, qui continuaient à œuvrer pour le régime. Donc il y avait un groupe de quelques centaines de personnes, peu nombreuses, quelques centaines. Nous avions emprisonné des officiers égyptiens, mais ils ont été libérés un peu après.
Jean-Pierre Filiu, donc, je vous laisse la parole à vous, l'historien, qui avait choisi d'évoquer justement Khan Younes dans votre livre. Qu'en pensez-vous de ces témoignages et surtout, quelles leçons, du point de vue de l'histoire, faut-il tirer de ce massacre de Khan Younes?
Oui, donc je n'ai pas choisi d'évoquer particulièrement Khan Younes plutôt qu'un autre sujet. C'est ainsi, c'est l'histoire de Gaza. Il faut en parler. Et on a une occupation israélienne qui dure 4 mois, qui est d'une violence extrême. On est dans le cadre effectivement de l'offensive israélo-franco-américaine contre le régime de Nasser, qui va aboutir effectivement à l'occupation du Sinaï. Mais à Gaza même, les Israéliens veulent en finir avec les fedaïnes et avec ces menaces d'infiltration. Donc effectivement, il y a des rafles massives. Donc, pour faire simple, hein, parce qu'il n'y a pas que Khan Younes, on estime que sur à peu près 300 000 habitants de la bande de Gaza à l'époque, environ 1 000 000 vont périr au cours de ces semaines terribles. Le traumatisme est profond, hein, on le voit encore dans les témoignages qu'on peut recueillir dans la bande de Gaza. Mais en même temps, ce qui est très important, c'est que les Israéliens partent après cette période très sombre et que, d'une certaine façon, l'idée que l'occupation n'est pas éternelle va rester ancrée au cœur de la bande de Gaza et va donc, malgré les tueries, alimenter encore et encore le nationalisme palestinien.
Mais justement, avant qu'ils partent, les Israéliens de la bande de Gaza, ces interventions violentes dans l'esprit des Israéliens, c'est justement pour éradiquer toute forme de nationalisme. On tape fort pour en finir une fois pour toutes.
Pour les responsables israéliens de l'époque, la menace absolue, ce sont les fedaïnes. Et autant il y a les lois de la guerre, les conventions de Genève qui s'appliquent, Mordechai Baron l'a encore rappelé, aux militaires égyptiens, autant avec les irréguliers palestiniens, celles-ci ne valent pas. Donc effectivement, on a les méthodes d'une occupation qui veut en finir, qui veut éradiquer la présence fédayine, avec toutes les violences qu'on peut imaginer, vu que, je le rappelle, il n'y a absolument aucune présence internationale qui permet d'endiguer l'arbitraire de l'occupation.
Et finalement, les États-Unis vont s'en mêler, et sous la pression du président Eisenhower, les Israéliens mettent un terme à cette première occupation de Gaza, début mars 1957.
L'évacuation de la zone de Gaza par les troupes et l'administration israélienne est pratiquement terminée. À l'heure où je vous parle, le dernier soldat repasse la ligne de démarcation. Le colonel Peled, gouverneur militaire de Gaza, a lancé une proclamation qui explique que Israël, lors de son séjour dans la zone, n'a voulu que le bien des citoyens et a pris en accord avec la force de l'ONU des dispositions qui permettront à la population locale de ne pas souffrir du brusque changement. En même temps, le colonel Peled a souhaité que toute cette affaire se termine dans l'intérêt des populations de Gaza et d'Israël. Ici Fabien Lacombe de l'agence France Presse à Jérusalem. À vous, Paris.
Marqué par l'ensemble des événements douloureux qu'elle a vécu au sein de sa famille depuis 48 à Gaza, Intisar Al-Wazir nous parle cette fois de son engagement dans le Fatah, puisqu'elle est la première femme palestinienne à avoir rejoint les rangs de l'organisation à sa création en 1959.
كانت رأيها كان مهم جدا طبعا أنا لما قرأت المجلة ورجعت أناقش الأستاذ قلت له أنا بشعر إنه في ناس ورا هاي المجلة أنا نفسي أكون واحدة من هدول الناس.
À ce moment-là, en lisant le magazine de Farsinona, j'ai compris qu'il y a une organisation derrière, qu'il y a une idéologie, qu'il y a de la résistance. J'ai demandé à mon entraîneur, j'aimerais bien rejoindre ce groupe-là de Fatahoui.
وبالفعل كنت أول بنت تدخل حركة فتح.
Et j'étais la première dame ou la première fille qui entre à l'intérieur de Fatah.
نصير يعني حسب الأصول يعني لسه نصير.
Donc je commençais par la première étape, c'est un membre partisan.
وبعدين صرت عضو عامل.
Et ensuite je suis devenu membre actif.
بعدين دعيت للاجتماع بده يجي مسؤول من الخارج.
Ensuite j'ai été convoqué pour un entretien, pour un meeting où il y aura un responsable qui va venir de l'extérieur de Gaza. Et dans le meeting, j'étais surprise par l'arrivée de mon cousin Khalil Al-Wazir. Donc je lui posais la question, toi tu es Fatahoui? Il m'a dit oui. Et toi tu es Fatahoui? Il a dit oui. Bah, là on a commencé à s'engueuler. Mais comment on est de Fatahoui? On ne sait pas qu'on est de Fatah.
كان هو بيعرف اني انا انضميت للحركه بس انا ما بعرف انه هو كان بالحركه وانه هو مؤسس الحركه
moi je savais pas du tout que lui le fondateur du mouvement il savait que j'étais membre de Fatah parce que ça passait par lui alors que moi j'ai ignoré complètement son engagement pour le Fatah.
انه هو مؤسس فتح
بس انت ما كنت تعرف
لا ما كنت اعرف بس انا ما كنت اعرف بس انا ما كنت اعرف وطبعا بعديها يعني اصبحنا كثير مقربين بالعمل
ensuite on s'est rapproché beaucoup je suis devenu son bras droit même en étant à Koweït il m'a envoyé les lettres il m'a envoyé les instructions et c'est moi-même qui va voir le Fatah pour parler des instructions et de la stratégie envoyée par Khalil Wazir de Koweït
كنا طبعا نشوف بعض كثير بالفتره اللي يجيها وطبعا حبينا بعض.
Et donc, durant ces visites, on se voyait pas mal et on est tombé amoureux.
Intisar Al-Wazir deviendra donc Oum Jihad, la femme de Khalil Al-Wazir, Abu Jihad. Donc, ces romances au pays du terrorisme, Jean-Pierre Filiu.
Enfin, pour l'instant, au pays du nationalisme. Il faut aussi voir que Abu Jihad, lui, était un réfugié, même s'ils étaient cousins, et que il venait donc de la Palestine centrale, et que au-delà de l'histoire personnelle entre Oum Jihad et Abu Jihad, il y a aussi ce symbole des réfugiés de Gaza et des habitants de Gaza qui se retrouvent dans les mêmes partis nationalistes.
Depuis 2007, c'est le Hamas qui contrôle Gaza. Le Hamas travaille une histoire officielle de Gaza selon laquelle les frères musulmans auraient toujours dominé et incarné la résistance et le nationalisme palestinien. Et justement, avec votre livre Jean-Pierre Filiu, est-ce que vous ne déconstruisez pas complètement ce mythe ?
Ah oui, je m'y emploie, entre autres des constructions. Mais il faut bien voir que sur place, hein, le blocus qui est imposé à la population et au territoire favorise la mise en œuvre de ce mythe, vu que le papier est une donnée stratégique qui ne peut pas rentrer librement dans Gaza, et que le Hamas, qui lui a ses propres circuits de contrebande de papier, a donc un monopole sur l'imprimerie, donc sur les livres, donc sur l'histoire officielle.
Merci Jean-Pierre Filiu. Je rappelle la nécessaire lecture de votre livre Histoire de Gaza aux éditions Fayard. Et je remercie également Nicolas Falaise pour avoir recueilli ses grands témoignages sur Gaza. Gaza aux origines du nationalisme, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani. Plus d'infos sur la page de La Marche du Monde. Écrivez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.